Bien le bonjour, bon vendredi matin, c'est l'émission du 19 janvier. Aujourd'hui, je célèbre un anniversaire. Ça fait exactement un an que j'ai le bonheur d'être à Visez-Voix et de vous... Et voilà le feu d'artifice. Merci, Martin. Martin. Et je l'appelle toujours Martin. Tu dois être un second prénom, toi. Alors, merci beaucoup, Mathieu. T'es super gentil. Alors, avec moi en studio, il y a Catherine de Brunet de retour avec nous.
Bonjour.
Et bonjour, Francine.
Bonjour et bravo, madame.
Merci. Alors voilà, aujourd'hui, accompagné évidemment de notre Mathieu, régisseur.
Bon matin.
Merci. Alors, ce matin, Francine, de quoi allez-vous?
D'abord, on va poursuivre le dossier sur les plantes. Alors, ce matin, on va parler de leur décision. Et ensuite, un texte vraiment d'opinion de Marie-Claude Lortie sur les téléphones intelligents. Les parents le sont-ils?
Ah, ouh! Je sens que ça va... Il va y avoir des débats qui vont se faire hors micro. Oui, et vous, Catherine?
Moi, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire parce qu'avant les fêtes, j'avais commencé la lecture de ce magazine sur la culture culinaire québécoise raisonnée qui s'appelle Caribou. Mais ce n'était pas terminé, quoique on a eu une longue pause entre les deux. Mais je vais poursuivre aujourd'hui avec un article qui va nous amener à travers le Québec gustatif, une espèce de road trip alimentaire. Ça va être super intéressant.
Merci beaucoup. J'en en doute pas une seconde. Pour ma part, je vais vous parler des laissés pour compte dans notre société. Et je vais vous parler aussi, je vais vous faire un portrait d'une femme qui s'appelle Anne Bialek, je vous en parlerai tout à l'heure. Et parce qu'on est en tout ça, parce qu'on est en 2018, un autre texte de l'actualité. Alors, nous vous revenons dans quelques instants. Alors, nous revoilà et je vais céder la parole tout de suite à Francine.
Merci, Hélène. Il y a deux semaines, nous avons entrepris la lecture d'un dossier dans Sciences et Vie qui porte sur l'intelligence des plantes. En fait, c'est l'édition de décembre 2017, sous la plume de Jean-Baptiste Verrieras. Alors, cette fois, on va parler de leurs décisions. Les plantes font des choix et prennent de véritables décisions. Au début, on n'osait pas y croire. C'est une histoire fantastique, se réjouit Georges Bassel de l'Université de Birmingham. C'est en se penchant sur la germination, mère de toutes les décisions et de la vie d'une plante, que ce chercheur britannique, qui se définit comme biologiste computationnel, a réalisé avec son équipe une première. Observer à l'échelle moléculaire, une plante pesait le pour et le contre avant de s'élancer vers la lumière. C'est un très beau travail. Le premier à montrer aussi finement le mécanisme de prise de décision chez une plante, applaudit Stefano Mancuso, pionnier italien de la cognition végétale. Un débat intérieur hormonal. Vaste sujet d'étude des neurosciences, la prise de décision est un processus fondamental que chacun d'entre nous réalise des milliers de fois chaque jour. Choisir, c'est l'éclair de l'intelligence, écrivait Balzac. Le mot intelligence est d'ailleurs lui-même composé des mots latins inter et légere, soit mot à mot choisir entre. Et la plante, elle aussi, prend moult décisions. Parce qu'elle le doit. En interaction permanente avec son environnement et sans possibilité de plier bagage à la moindre alerte, il lui faut, pour survivre, tirer à chaque instant et en chaque saison le meilleur parti de son milieu. Même si un mauvais choix n'a pas d'effet négatif immédiat, son coût énergétique réduit à terme la performance de la plante, souligne le botaniste britannique Anthony Trevavas. Parce que ce mécanisme se déroule dans le temps végétal, qui est très éloigné du nôtre, on a longtemps sous-estimé la capacité des plantes à faire sens des informations extérieures et à prendre la décision la moins préjudiciable pour l'avenir. D'autant qu'un autre problème se pose. Quelle partie de la plante faut-il étudier pour observer ce mécanisme? Ce problème, Georges Bassel l'a illégalement contourné en étudiant la prise de décision chez une graine. Parce que toutes les cellules de la plante, sont alors rassemblés en une seule et même unité. Et parce que la graine n'a qu'une seule grande décision à prendre, germer ou ne pas germer. On savait déjà que la graine, comme sa plante mère, est capable de sentir assez finement son environnement au fil du temps. La température, l'humidité, les nutriments, etc. Mais cela va plus loin, car notre graine doit se garder des décisions hâtives. Par exemple, dans le cas où en plein hiver, quelques journées exceptionnellement douces lui feraient croire au retour du printemps, elle pourrait entreprendre de germer sans y réfléchir à deux fois. Erreur! Le froid des jours suivants viendrait glacer ses ardeurs printanières. Et elle n'aurait plus qu'à s'en mordre la racine, ou plutôt ce qui n'est alors tout au plus qu'une radicule. Ne pas se précipiter, mais au contraire, décider de ce qu'il convient ou non de faire, voilà ce dont les plantes sont capables. Georges Bassel l'a constaté chez la rabette des dames, c'est une petite plante de la famille de la moutarde, une des grandes stars des laboratoires de botanique. Celle-ci n'est pas née de la dernière gelée. Avant de mettre le nez dehors, elle prend soin de traiter l'information en tournant sa petite racine plusieurs fois dans sa graine. L'extrémité de la radicule abrite un véritable centre de décision qui pèse en continu le pour ou le contre, et qui partage d'ailleurs la même organisation spatiale que certains systèmes cognitifs très simples du cerveau humain, explique la chercheuse Caroline. Comme un calcul informatique. Or, l'arrivée d'une hormone inhibe la production de l'autre, créant un système dynamique complexe, poursuit le chercheur. Nous avons démontré que seule une telle organisation spatiale préservait la plante d'une réaction hâtive. In fine, la décision de germer n'est prise qu'à la suite de fluctuations significatives de la température. Pas si bête, la graine mûrit donc son choix au fil d'une séquence annonciatrice des beaux jours. C'est probablement d'ailleurs le même mécanisme qui contrôle d'autres décisions liées à la croissance de la plante, selon Georges Bassel. De tels centres de décision seraient ainsi distribués dans toute la plante afin de piloter au mieux la croissance en fonction de différents signaux extérieurs, lumière, température, disponibilité des ressources minérales, etc. Il y a un parallèle fascinant entre les cellules des plantes et une grille de calcul informatique. Il semblerait que chaque cellule prenne sa part de traitement afin que l'ensemble du système puisse prendre la meilleure décision. Venu du monde de l'informatique, Georges Bassel espère bien s'appuyer sur cette analogie pour révéler à terme d'autres mécanismes de traitement de l'information chez les plantes. En attendant, si une plante fait quelque chose, c'est qu'elle l'a décidé. Alors, Science et vie, décembre 2017, Jean-Baptiste Vieiras, l'intelligence des plantes.
Voilà, Hélène Bédard au micro. Je vais poursuivre une lecture. Le titre, c'est « Accompagner les laissés pour compte ». En fait, on parle du poids de la solitude. C'est un très beau texte de Sophie Allard qui est paru dans la presse la semaine dernière. Il est 9h30. Gilles Kegle grille le quart d'une cigarette et prend deux gorgées de café noir. Il dit « A-t-on les fleurs? A-t-on les photos? » demande-t-il fébrile. Dans son chariot à provisions, il entasse des petites boîtes emballées de papier brun. Elles contiennent les cendres de défunts, des personnes mortes, seules, abandonnées, des corps non réclamés. Aujourd'hui, on rend hommage à 29 personnes décédées, souligne cet homme. Formant un cortège inusité, M. Kegle et des membres de son équipe se dirigent en marchant vers l'église Saint-Roch, à Québec, dans la ville de Québec, à deux coins de rue de là, où seront célébrées les funérailles communes. Tirant leur chariot chargé, ils gravissent péniblement les marches du parvis. C'est une journée difficile, mais nécessaire. On a accompagné plusieurs de ces personnes jusqu'à la mort. D'autres sont partis dans l'anonymat le plus complet. On n'a trouvé aucune information sur eux, pas même le nom de parents ou lieu de naissance. C'est d'une grande tristesse. Durant la cérémonie, je dirai un mot sur chacun d'entre eux. Pour certains, ce sera bref. Surnommé l'infirmier de la rue ou la mère Teresa du quartier Saint-Roch, Gilles Kegle côtoie la solitude des plus démunis depuis déjà une cinquantaine d'années. Il la voit dans les parcs, dans les piqueries, dans les habitations à loyer modique. Là où il y a de la pauvreté, il y a de la solitude. Certains sont si isolés qu'en les voyant dans la rue, on a l'impression qu'ils vivent dans un monde parallèle, qu'ils sont dans une bulle. Et quand on entre chez certains aînés, on les trouve immobiles devant une télé éteinte. Ils ont perdu tout intérêt. Il n'y a alors que l'ennui. L'infirmier s'est donné pour mission de prendre sous son aile et laisser pour compte avec son équipe. Il accompagne 400 personnes par année à Québec. Les plus jeunes ont 25 ans. Les besoins vont en augmentant, surtout au niveau des soins palliatifs. Est-ce que c'est parce que les CLSC en font moins? Avant, je recevais 5 références par semaine. Aujourd'hui, ça tourne autour de 20. Au fil des ans, cet infirmier a découvert plus de 200 personnes mortes seules dans leur petit logement. Lors des grandes chaleurs, c'est terrible. Il se rappelle avec émotion avoir trouvé un homme alcoolique mort 3 semaines plus tôt sur la rue de la Couronne. Ça sentait très mauvais, les rideaux étaient tirés, tout ce qu'on entendait, c'était les mouches volées. Tombé de son lit, l'homme était momifié dans ses couvertures, personne n'avait remarqué son absence. Installé au fond de l'église, M. Kegle extirpe d'un sac de plastique les photos des défunts qu'il a fait encadrer. Certains clichés jaunis et abîmés ont été pris il y a des décennies de cela. Les bénévoles disposent les cadres sur des tables pliantes installées pour l'occasion. « On manque de place », dit Noëlla tout en changeant la disposition des photos. « Il y a 10 ans, j'enterrais 10 morts par année. Aujourd'hui, j'en enterre 60. Ça ne fait qu'augmenter. » Figurant sur sa liste funèbre, une enseignante, un mécanicien, un chauffeur de taxi, un militaire, un cuistot, un artisan, un motard, une bénévole. Ils étaient des passionnés d'horticulture, de bons golfeurs, des musiciens de talent. Après une dure épreuve ou en raison de la maladie, ils ont sombré, se sont isolés. Nous les accueillons sans jamais juger. Parfois, c'est trop peu trop tard. Plusieurs protégés mettent fin à leur jour, comme Gaëtan, mort l'été dernier à 53 ans. Né à la crèche et abandonné par sa famille adoptive, il habitait dans un milieu de drogue et de prostitution. Malgré ses problèmes de santé mentale, il travaillait fort, il se rendait au maxi à vélo été comme hiver, il avait étudié en cuisine. La veille de sa mort, je l'ai croisé, il m'a longuement regardé sans aucune expression. On l'a retrouvé 3 jours plus tard. Cette semaine seulement, 2 de ses patients ont tenté de mettre fin à leur jour. M. Kegle en est attristé, mais aucunement étonné. La solitude est parfois si souffrante que ça va jusque-là, jusqu'au suicide. Aujourd'hui, j'irai les visiter cet après-midi après la réception. La première fois qu'il a organisé des funérailles pour une patiente il y a 30 ans, il ne se doutait pas de l'ampleur que prendrait cette initiative spontanée. J'étais bénévole, je ne pouvais pas me résoudre à abandonner ma patiente dans la mort. J'ai défrayé de ma poche le coût des funérailles et j'ai remboursé ma dette après des mois. Il a ensuite enterré 3 ou 4 autres patients par année. Je me privais de manger pour payer les funérailles. Le plus dur, c'était de les laisser aller dans des fosses communes. Ça me déchirait. Mes patients, c'est comme ma famille. L'homme précise qu'il n'a plus de contact, malheureusement, avec la sienne depuis déjà 40 ans. Des dépouilles non réclamées lui sont confiées depuis 10 ans par le ministère de la Santé et des Services sociaux. L'événement a lieu 2 fois par année. Ça nous laisse le temps de retracer famille et amis, parfois avec l'aide des enquêteurs de police. On réussit souvent à trouver quelqu'un et la cérémonie donne lieu, évidemment, à des retrouvailles posthumes, parfois émotives. En ce vendredi d'octobre, plus d'une centaine de personnes ont répondu à l'appel. Des bénévoles, des fidèles, des proches. Mêlés à la musique de l'orgue, des pleurs résonnent dans la nef. Au micro, Gilles Kegle lit son texte griffonné sur des feuilles de papier froissées. Un mot sur Jean-Louis, sur Raymond, sur Marc, Richard, Roland, Michel. Certains adieux sont plus difficiles que d'autres. Le départ de Nicole, morte en septembre dernier, a laissé un grand vide. Avec son équipe, il en a pris soin jusqu'à la fin. L'été dernier, la santé de Nicole s'est rapidement détériorée. Elle était très souffrante. Elle a demandé l'aide médicale à mourir. J'étais à ses côtés jusqu'à la fin. J'ai pris sa main. 10 minutes plus tard, j'ai senti qu'elle était partie. Gilles Kegle s'éloigne du micro, replie ses feuilles soulagées. Tout s'est bien passé. Proches et bénévoles partent. Photos sous le bras et rose à la main, alors qu'un ténor entonne un Ave Maria. Jean-Charles traîne les pieds, fait durer ce moment. C'est vraiment très beau, dit-il, les larmes aux yeux. Il est seul dans la vie. Aujourd'hui, il est venu voir de quoi auront l'air ses funérailles. Il en est ravi.
Le vent les portera.
Nous revoilà avec la suite de nos actualités. Alors, nous allons poursuivre avec Catherine Brunet et son extraordinaire revue Caribou. À toi, Catherine.
Merci, Hélène. Alors, je vous lis un article qui s'appelle « La palette de la péninsule ». C'est dans la section « Road trip » de cette revue sur la culture alimentaire au Québec. Les boulangers, fromagers, microbrasseurs, torréfacteurs et autres artisans des métiers de bouche sont nombreux à commander un arrêt aux gens qui prennent la route pour parcourir le Québec. Uniques, leurs produits sont l'incarnation de leur savoir-faire et sont presque des œuvres d'art. Road trip en Gaspésie, d'un artisan à l'autre, pour voir ces artistes à l'œuvre. Et c'est un texte de Catherine Girouard. Certaines expériences gustatives sont inimitables et ne peuvent être vécues que dans ce café au bord de mer, cette boulangerie croisée entre deux villages. Qui sont les artisans derrière ces produits? Peut-on les considérer comme des artistes? Et peut-on parler de leur création comme autant d'œuvres d'art culinaires? Pour aller à la rencontre de certains d'entre eux, c'est la Gaspésie avec son air salin, ses côtes pleines de soleil en été et ses nombreuses adresses gourmandes qui nous a séduits. L'art de la torréfaction. On roule longtemps entre les flancs de roc et les rivières de la vallée de la Matapédia avant que la baie des chaleurs apparaisse à l'horizon, à 800 km de Montréal. On arrête enfin le moteur sur la rue du Quai, à Carleton-sur-Mer. Une tasse à la main, plusieurs touristes prennent un bain de soleil, installés dans les chaises adirondacks de la brûlerie du Quai. L'arôme rond et réconfortant qui flotte dans la brûlerie réveille nos sens sur le champ. « Bienvenue dans notre salle de montre », nous dit Danny Marquis, en indiquant de ses bras le petit espace bondé. Pour son fondateur, la brûlerie du Quai n'est pas qu'un simple café. On est d'abord un importateur et torréficateur de café haut de gamme, affirme-t-il en poussant la porte de l'arrière-boutique qui s'ouvre sur une vaste pièce pleine de soleil. Des poches de grains de café s'empilent dans la pièce au plafond cathédral. « Je les sélectionne mes cafés selon mes goûts », dit le trentenaire en remontant une manche de sa chemise à carreaux. Danny, qui est aujourd'hui un expert, n'y connaissait rien lorsqu'il a ouvert son commerce. On a déménagé à Carleton pour changer de vie, explique ce jeune homme qui a vécu 10 ans à Montréal avec sa conjointe et leurs enfants. J'ai créé la brûlerie parce que je ne trouvais pas de travail. Aujourd'hui, les gens y passent par milliers pour déguster son café durant l'été et l'entrepreneur vend en ligne 80% de sa production. Et d'où vient cette odeur sucrée qui flotte dans l'atelier? Des fèves de cacao fraîchement torréfiées. Aujourd'hui, les chocolatiers ne font pas leur chocolat. Ils l'achètent dans l'un des 4 producteurs mondiaux, déplore Danny. On a aplati les motifs aromatiques du chocolat qui goûtent sensiblement toujours la même chose. L'entrepreneur crée donc Chaleur B Chocolat en 2014. Les poches de fèves de cacao crues qui entrent dans l'atelier en ressortent en barres de chocolat remplies des arômes propres à leur terroir d'origine. Même s'il y a beaucoup d'influence sur le goût qu'il donnera au café à l'étape de la torréfication, Danny dit devoir être humble en ce qui concerne la transformation du cacao. C'est toujours à la ferme que le cacao développe ses arômes. Il choisit donc scrupuleusement ses producteurs. Le torréfacteur se définit comme un passeur d'arômes. Je me sens comme un geek qu'un artiste, rigole-t-il. Mon art réside peut-être dans le choix que je fais des grains de café et de cacao quand je dessine ma ligne éditoriale de saveur. Le reste du temps, de torréfication, température, concassage des fèves pour le cacao, triage, vannage, mouture, conchage, temps de repos, est hyper calculé et contrôlé. On finit nos cafés en léchant le chocolat sur nos doigts. « Où allez-vous maintenant ?» demande Danny. « À Gaspé, chez les cueilleurs de Gaspésie sauvage. » Vous allez voir Gérald et Catherine, s'exclame-t-il. Pouvez-vous leur ramener un paquet de ma part? Le palais heureux repart donc avec quelques barres de chocolat à livrer au prochain arrêt. Et le prochain arrêt, c'est l'art de la cueillette. On longe la côte gaspésienne pendant 4 heures. Les villages comme Paspébiac, Grande Rivière, Percé et son impressionnant rocher s'enchaînent jusqu'à Gaspé où on bifurque à gauche. On s'enfonce dans la forêt. Deux bergers des Pyrénées nous accueillent bruyamment chez Gérald Matard et Catherine Jacob, fondateurs de Gaspésie sauvage. Derrière la maison, un jardin. Des chatons, des poules et des canards se promènent librement. « Entrez, vous allez dîner avec nous », dit Gérald. La grande table de bois est couverte de plats. Du pain au levain, des œufs durs, des fromages, une salade, des limonades fermentées à la pomme et à l'épinette, des radis marinés, du gésier confit. Absolument tout est fait maison à partir des produits de la ferme. Cela nous semble digne d'une magnifique nature morte, mais le couple, lui, n'y voit rien d'extraordinaire. « C'est comme ça tous les jours ici, » dit Gérald en s'attablant. Les deux Belges se sont établis en Gaspésie avec leurs trois fils il y a 13 ans pour y vivre en autarcie, ou presque. Le couple passe le plus clair de son temps à s'occuper des animaux, du jardin, de la terre, à cuisiner et à cueillir les champignons, plantes comestibles, fleurs, petits fruits, graines, algues et baies qu'ils vendent frais, séchés ou transformés sous l'étiquette de Gaspésie sauvage dans des épiceries fines et à des restaurateurs de la province. « Nous utilisons la forêt, nous ne nous l'exploitons pas », dit Gérald, qui cueille avec son père depuis qu'il est tout petit. Repu, on suit le cueilleur dans le bois. Y marchant en pied de bas, comme s'il s'agissait d'un prolongement de son salon, notre guide nomme tout ce qui nous entoure. Pour nous, aucun doute, connaître toutes ces plantes et savoir les transformer est un art. Mais Gérald soupire, on veut tout classer comme si c'était exceptionnel. On va dans le bois et on ramasse des fleurs. S'il y a un truc que l'humanité fait depuis toujours, c'est bien la cueillette. On remercie nos hôtes, on est attendu à la microbrasserie Oval. « Vous allez voir Ben !» s'exclame Gérard. « Gérard, voulez-vous lui apporter quelque chose de notre part ?» On repart donc avec un petit pot de curry sauvage à livrer. Et je vais poursuivre ce road trip tout de suite après cette courte pause.
Et moi, de mon côté, j'aimerais vous rappeler, j'ai remis tout à l'heure de vous le mentionner, le texte que j'ai lu accompagné les laissés pour compte était un texte de Sophie Allard tiré de La Presse Plus. Et je vous demande de rester avec nous pour la suite de l'émission, les voies de service, tout de suite après la pause. Alors, dans pas long.
J'étais super naze, grosse semaine de boulot. Je me sentais d'occase, besoin de repos. Faut être raisonnable pour faire des vieux os. Intraitable, savoir se coucher tôt. J'ai dit les gars sans moi, je rentre, j'ai de la route. Non, n'insistez pas, bon d'accord, 5 minutes. J'aurais dû me douter que c'était qu'un début. Les meilleures soirées ne sont jamais prévues. Paris by night, au hasard de la nuit, qui nous prend par la main et nous laisse au matin. Paris by night, ce qui me réjouit, c'est qu'on regrettera demain que ce dont on se souvient. En sortant du bistrot, j'ai dit cette fois j'y vais. On est sorti du resto, mais 4 heures après. Quelqu'un a dit, on se quitte pas comme ça. Je sais plus trop qui, je crois que c'était moi. On a pris un taxi, parce qu'au volant, pas d'alcool. Et faut dire qu'aussi, on retrouvait plus la bagnole. On a été dans un bar et dans un autre un peu mieux, en s'arrêtant pour boire un coup entre les deux. Paris by night, au hasard de la nuit, qui nous prend par la main et nous laisse au matin. Paris by night, ce qui me réjouit, c'est qu'on regrettera demain que ce dont on se souvient. Il était tellement tard qu'il était presque tôt. On allait bientôt voir les gens partir au boulot. On a été dans un club, dans une discothèque, dans une boîte à la mode. Là, ce fut un échec. Un videur nous a refoulés, je lui ai demandé doucement. S'il savait qui j'étais, il m'a dit ouais, justement. Pour laver l'affront, on a pris un falafel. Remis d'aplomb, on est reparti de plus belle. Paris by night, au hasard de la nuit, qui nous prend par la main et nous laisse au matin. Paris by night, ce qui me réjouit, c'est qu'on regrettera demain que ce dont on se souvient. On a fini en after, le jour allait se lever. Un peu comme les vampires, on voulait l'éviter. On s'est promis en sortant qu'on nous y reprendrait plus. Cette promesse, heureusement, on l'a jamais tenue. Paris by night, au hasard de la nuit, qui nous prend par la main et nous laisse au matin. Paris by night, ce qui me réjouit, c'est qu'on regrettera demain que ce dont on se souvient. Et moi je préfère Paris by night. Paris by night.
Benabar et sa chanson Paris by night.
Merci Mathieu.
Ça fait plaisir.
Nous revoilà en ondes, Francine Forget, Catherine Brunet, Hélène Bédard. Alors, nous poursuivons la lecture avec Francine.
Oui. Marie-Claude Lortie, comme je vous disais tantôt, dans une chronique du 9 janvier 2018 dans La Presse Plus, parle des téléphones intelligents et pose une question. Les parents le sont-ils aussi? Vous rappelez-vous Mad Men, dans cette série télé brillante ancrée dans les années 60? Les enfants ne portaient pas de ceinture de sécurité et s'assoyaient à l'avant dans les voitures. Ils jouaient avec les sacs de plastique et se les mettaient sur la tête. Et leurs parents fumaient partout, tout le temps, y compris les femmes enceintes, sans parler de l'alcool que ces adultes commençaient à boire en arrivant au bureau le matin. Fou de penser que tout cela était alors courant. Et impossible de ne pas se demander quelles seront ces habitudes aujourd'hui normales que demain on trouvera totalement irresponsables ou autodestructrices. Je suis certaine qu'il y en aura un paquet et je suis aussi certaine que notre utilisation du téléphone cellulaire et des réseaux sociaux sera en haut de cette liste. Le questionnement à cet égard commence sérieusement. Deux investisseurs majeurs de la société Apple viennent d'écrire une lettre ouverte à l'entreprise lui enjoignant de se pencher sur l'effet des téléphones intelligents sur les enfants. Il y a un consensus en train de se former dans le monde, incluant Silicon Valley, sur le fait que les conséquences potentielles à long terme des nouvelles technologies doivent être prises en considération dès leur création et qu'aucune entreprise ne peut se défaire de cette responsabilité, ont écrit les deux grands investisseurs dans une lettre rendue publique par le Wall Street Journal. Ensemble, Jenna Partners et California State Teachers Retirement System détiennent près de 2 milliards d'actions de la société Apple. Apple, ont-ils aussi écrit, peut jouer un rôle déterminant en signalant à tout le secteur qu'accorder une attention spéciale à la santé et au développement de la prochaine génération est à la fois une bonne décision d'affaires et la bonne chose à faire. Il est temps que de telles inquiétudes soient finalement prises en considération par le monde des affaires. Longtemps, on s'est inquiété de l'effet des ondes des téléphones portables sur la santé, mais aucune étude n'a jamais permis de déclarer formellement que l'utilisation du cellulaire pouvait nous rendre malades de cette façon. On peut continuer d'avoir des doutes, mais on attend la science. En revanche, ce qui commence à créer un consensus chez les chercheurs, notamment les pédopsychologues et les spécialistes de dépendance, c'est que les téléphones intelligents affectent le développement des enfants. Une spécialiste britannique, citée par le quotidien britannique The Independent, nous a même secoué de notre torpeur de parents l'été dernier en comparant ses téléphones à de l'alcool ou de la cocaïne. « Hey !» écrit Marie-Claude Lortie. La simple utilisation d'un réseau social de façon quotidienne est associée à une hausse de 13% des symptômes dépressifs. Et les enfants ont des téléphones de plus en plus jeunes. Selon un sondage de la firme de recherche de Boston Influence Central, les jeunes Américains reçoivent en moyenne leur premier téléphone à l'âge de 10,3 ans. Inquiétant Oui, et pourtant, c'est un grand tabou. Là, les investisseurs d'Apple ont pris le micro. Mais n'importe quel parent inquiet vous le dira. Les fabricants et les vendeurs de technologies ont gagné la bataille sur le terrain. Nos craintes, lorsqu'elles s'expriment, font de nous quasi automatiquement des ringards grincheux anti-techno. Comme s'il n'y avait pas de différence entre embrasser la modernité aveuglément et l'approcher avec un prudent enthousiasme. Pourtant, on connaît tous des adultes qui ne sont plus ados depuis longtemps et qui ont des difficultés avec la techno, que ce soit des déprimés des réseaux sociaux ou les responsables texteurs au volant. Les irresponsables texteurs au volant, quel lapsus! Comment ne pas voir les dangers pour nos enfants? De l'anxiété aiguë de perdre le dit téléphone à l'intimidation grave en ligne, en passant par les coupures sociales créées par ces appareils, les dangers sont innombrables. Et là, on ne parle même pas de toute l'information qu'ils envoient dans le grand cyberespace sur leur vie, leur choix. Chaque clic, chaque like aura une valeur dès demain, en fait, dès aujourd'hui, puisque les données sont les matières premières de la prochaine économie de l'intelligence artificielle. Peut-on vraiment laisser nos enfants s'inscrire dans tout cela alors qu'ils sont totalement inconscients de tous ces enjeux? Merci aux investisseurs d'Apple d'ouvrir la boîte de Pandore et de demander plus de mesures techniques, pratiques, pour permettre aux parents d'aider les enfants à se servir juste suffisamment et intelligemment de leurs appareils. On se doute que ce n'est pas uniquement par grandeur d'âme que les gens d'affaires de Silicon Valley se réveillent, qu'ils ont peur des conséquences à long terme sur les entreprises. Et s'ils ont peur, c'est parce qu'il y a de réelles raisons de s'en faire. Réveillons-nous, nous ici. Marie-Claude Lortie sur les téléphones intelligents dans la presse plus du 9 janvier 2017. 2018! 2018!
Voilà, en studio. Pour ma part, Hélène Bédard au micro. Pour ma part, je vais vous faire le portrait d'une femme qui se prénomme Anne Bialek. Et c'est un texte de Ariel Grana. Et c'est un... Et je l'ai pris dans la publication Les Boumeuses. Portrait donc de Anne Bialek. C'est une aventurière des temps modernes qui a tout lâché pour gravir les sommets boliviens et fonder Taki Voyage, une agence de voyages différentes pour découvrir la Bolivie autrement. Et elle se définit ainsi. « Je suis une boumeuse, c'est-à-dire, c'est avoir l'expérience de la vie, la maturité suffisante pour se lancer dans des projets fous qu'on ne l'aurait jamais imaginé étant plus jeune. C'est aussi être dynamique, proactive, ambitieuse, fonceuse. Tout nous paraît alors possible. La vie nous enseigne et nous guide vers le bon chemin, celui où on s'aime soi-même. » On se sent alors boosté, capable de tout. On se sent sûr de nous et forte. Après 40 ans, on est alors conscient de ce qu'on veut et du chemin vers lequel on souhaite aller. Il ne reste plus alors qu'à foncer. J'ai tout quitté il y a 10 ans. Jeune, je rêvais d'être aventurière et je suis devenue ingénieure. Après 10 ans de loyaux services dans l'industrie automobile, je me sentais au point mort, au ralenti. Je m'ennuyais fortement dans la vie, je rêvais de gravir les montagnes. Et mon ex-mari n'était pas un aventurier. Je suis tombé sur une belle photo de 6000 en Bolivie. J'ai alors organisé mon voyage et j'ai alors gravi mon premier 6000, qui veut dire ascension d'un sommet de 6000 mètres d'altitude. En Bolivie, il y a un dicton. Tout est possible, mais rien n'est sûr. C'est ce qui m'a plu, c'est le « tout est possible ». Tout m'est alors paru possible. Je suis tombée amoureuse des montagnes, mais aussi des Boliviens, de leur gentillesse, de leur joie de vivre. J'ai décidé de tout abandonner en France, mon travail rémunérateur, ma maison avec piscine dans le Luberon, mon confort matériel, mes vacances luxueuses, tout pour recommencer à zéro, sans promesse de travail ni futur assuré. J'ai commencé à travailler comme guide accompagnateur en trek, puis comme commercial dans une agence de voyage. Et par la suite, j'ai ouvert ma propre agence que j'ai nommée Taki, T-H-A-K-I, Taki Voyage. avec un ami rencontré en Bolivie qui est aussi devenu mon meilleur ami. Désormais, cette agence fonctionne bien et moi, je vis de ma passion et me passionne pour la vie. J'enchaîne les sommets et j'ai une vraie connaissance dans le milieu montagnard. C'est génial d'avoir 50 ans. C'est l'âge d'une nouvelle vie professionnelle. Cette maturité et cette expérience nous permet de faire des choses incroyables. On fonce vers notre vrai chemin de vie. On a soif d'apprendre encore et encore, de s'investir, de se surpasser dans ce qui nous plaît vraiment. On ne se pose pas les mêmes questions que lorsque nous avions 20 ans ou 30 ans, comme le regard des autres, l'image que l'on donne. Je ne me suis jamais senti aussi jeune, dynamique et sûr de moi qu'après mes 40 ans et à l'aube de mes 50 ans. Des projets, il y en a énormément. Ce sont eux qui me boostent. J'en ai beaucoup. L'âge avançant, cela rend plus compliqué les projets ambitieux en montagne. J'ai fait comme une boulimie de projets montagne avant que cela ne soit plus possible. Ouvrir de nouvelles voies dans les Andes, par exemple. Mais j'ai aussi un grand projet pour mes 50 ans, faire une expédition en Himalaya et passer le cap des 8000. Pour cette folle aventure, la volonté et la détermination ne suffisent pas. Il faut aussi des fonds. Je m'y investis beaucoup depuis quelques mois et je cherche des sponsors. Mon objectif est d'amener des guides boliviens au Pakistan sur le grand glacier Baltoro, l'un des plus grands glaciers au monde, afin de tenter des 8000. Ce sera une première pour ces guides boliviens, pour moi aussi. Un projet ambitieux, mais rien n'était possible. Comme je le disais, la cinquantaine nous permet d'être au top de nos compétences, de notre détermination et notre assurance. Mais la contrepartie est la limitation physique. Tout nous coûte beaucoup plus à partir de 45 ans. S'entraîner, se lever plus tôt le matin, être au top de sa forme. Il faut une volonté de faire, notamment dans le domaine où j'évolue. Mais quand je vois des alpinistes comme Carlos Soria, qui a 77 ans, gravi l'Annapurna en 2016, je me dis que oui, tout est possible. J'ai aussi fait récemment une belle rencontre avec une autre boumeuse, Sophie Laveau, qui, à l'aube de ses 50 ans, a déjà gravi 5 sommets de plus de 8000. Une grande dame dynamique, déterminée, pleine d'humanité. J'espère suivre ses traces et aller au bout de mes rêves. Donc, un texte paru dans Les Boumeuses, un très beau texte de Mme Ariel Granat qui trace ce portrait de cette femme Anne Bialek. Vous allez poursuivre et enchaîner avec...
Avec l'article que j'ai commencé avant la pause, ce road trip en Gaspésie, un road trip culinaire. On a fait un tour dans l'art de la torréfaction et aussi dans l'art de la cueillette. Et maintenant, je vous amène dans l'art de la bière. Direction Val d'Espoir, à 20 km de Percé, à l'intérieur des terres. À part un vieux Westphalia, on ne croise personne sur cette route vallonnée. On trouve le fondateur d'Oval, Benoît Couillard, occupé à déguster une bière avec quelques amis devant sa nouvelle microbrasserie, construite dans un hangar de ferme au milieu d'un champ. Mais personne n'a d'Oval à la main. « Je suis en rupture de stock depuis 2 semaines », nous dit Benoît, qui a cofondé la microbrasserie gaspésienne Pit Caribou il y a 10 ans, avant de vendre ses parts et de voler de ses propres ailes. Même s'il écoule 90% de sa production sur place, celle-ci s'est envolée plus vite qu'un panier de petits pains chauds. Je ne peux pas vraiment me cacher plus loin que Val d'Espoir, mais les gens me trouvent pareil, rigole le trentenaire. De grosses cuves en acier inoxydable brillent au fond de la microbrasserie. Ce n'est pas une grosse chope ici. Ma production est au moins 10 fois plus modeste que celle de Pit Caribou, dit le jeune père de famille qui a fondé Oval justement pour faire quelque chose de plus petit. « J'embouteille une nouvelle saison demain », dit Benoît en vidant des bouteilles stérilisées. Le jeune brasseur cherche à démarquer ses bières des styles préétablis. « On fait de très bonnes bières au Québec, mais on est encore bon pour singer... On est encore bon pour singer les autres, faire des styles belges, allemands. J'aimerais brasser juste des bières Oval. » Pas des stouts, pas des saisons, des ovales. Benoît nous parle de toutes les étapes de fabrication d'une bière en se déplaçant d'une immense cuve à l'autre. J'adore le métier de brasseur, dit-il. Est-ce un art? Peut-être, je ne sais pas. Je définis Oval comme une entreprise de création de bière artisanale, mais il y a aussi une partie très technique. On lui donne le pot de curry de Gérard Matard en sortant du hangar avant de nous diriger vers la fromagerie du littoral. Je ne connais pas les gens de cette fromagerie, mais je vous donne quelque chose pour eux, dit Benoît. Il revient avec une bouteille d'Aronia, une bière sûre aux fruits. Ma toute dernière, affirme-t-il. Amusé, on repart en ayant l'impression de trimballer un petit trésor. On passe à l'art du fromage. Le lendemain, 5 heures de route plus tard, on arrive à Baie-des-Sables, un village tout près de Matane. La fromagerie du littoral fait face à la mer. Carole Castonguet apparaît derrière le comptoir en retirant le filet qui couvre ses cheveux courts. Son mari, Christian Beaulieu, nous rejoint et emplit la bouteille de son rire contagieux. La boutique, pardon, de son rire contagieux. Mon tour de faire des lapsus. Mon père a créé sa ferme laitière en 1952, raconte l'élancé cinquantenaire. On aperçoit son silo à quelques pas de la fromagerie. Christian a grandi entre les seaux de lait, mais son bébé à lui, c'est le fromage. Les agriculteurs souffrent souvent d'isolement, dit-il. J'ai eu envie de faire du fromage pour voir du monde. Le sourire aux lèvres, les amoureux racontent le 20 juillet 2006. On a ouvert la fromagerie ce jour-là, avec un seul fromage, notre cheddar, dit Carole en coupant quelques tranches de celui-ci pour nous le faire goûter. Aujourd'hui, ils en ont 4, dont un de style camembert, dont Christian est particulièrement fier. Nos fromages goûtent le lait parce qu'ils sont faits avec du lait, dit Christian. Peut-on faire du fromage sans lait, s'étonne-t-on? Dans certains fromages comme le Petit Québec, il n'y a pas de lait, mais des substances laitières décomposées. Je n'ai rien contre ça, mais ça ne s'appelle plus du fromage. Ici, les fromages utilisent le lait entier de leurs petits troupeaux, ce qui fait la force de leur fromage, croient Christian et Carole. Ils se réjouissent de voir autant de clients revenir depuis 11 ans. Et quelques bonnes tables de la ville de Québec, comme le Quai 19 et le Saint-Amour, mettent leurs produits au menu. On ne devient pas fromager du jour au lendemain, dit Christian. C'est un art. Il faut comprendre la matière première et tous les petits détails. De ce que mangent les vaches aux changements de température dans la salle d'affinage peuvent faire vraiment une différence. En quittant, on donne la bouteille de bière Oval et on dépose notre prochaine livraison dans la glacière, un petit blanchon qui sera plus que parfait avec les pains uniques de la boulangerie Niemann où nous avons rendez-vous le lendemain. L'art de la boulangerie. Sur le chemin de retour vers Montréal, on ne peut s'empêcher de faire un arrêt dans le Baie-Saint-Laurent à Kamouraska. Jouant à la perfection son rôle de chat de boulangerie, Gribouille nous accueille en ronronnant sur le perron de la boulangerie Niéma. Il est 10 heures et les clients sont nombreux. Un foulard sur la tête comme toutes les vendeuses, Denise Pelletier nous invite à entrer dans sa maison, attenante à la boulangerie. En achetant cette demeure cinquantenaire, aux bordures du fleuve, l'artiste peintre originaire de Kamouraska voulait en faire une galerie d'art. « Jamais je n'aurais cru que j'y vendrais du pain tous les étés depuis maintenant 23 ans », dit-elle en riant. Le pain aura été une histoire d'amour pour Denise, qui a mis la main à la pâte en rencontrant Joshua Niemann, un fils de la boulangerie allemande. Unique, leur pain marie les traditions allemandes et les produits du terroir du Bas-Saint-Laurent. Le couple achète du seigle et du blé au meunier du coin et moue sa propre farine au sous-sol. À l'étage, on trouve Joshen et son équipe occupés à pétrir le pain multigrain. « La pâte est très molle parce que c'est de la farine brute », explique le boulanger en chef, Tablier Ouanche. Comme pour le vin et la bière, c'est le temps de fermentation qui donne ses arômes au pain, explique Emmanuel, boulanger depuis 7 ans. Mais comme pour tout, l'industrie du pain va vite aujourd'hui. Ici, on attend que le pain soit prêt et on s'adapte aux changements de température de ce bord du fleuve. Les gens sont joyeux, ils travaillent avec le fleuve, dit Denise, le regard à l'horizon. Notre pain serait différent s'il était fait à Montréal. Peut-on qualifier d'art leur création? Joshen et Emmanuel hésitent. La boulangerie est plutôt un savoir, finit par dire Joshen. Mais sa femme, elle, est sans équivoque. La boulangerie est un art, la vie est un art, s'exclame-t-elle avant de nous faire lire un poème de Pablo Neruda. Honneur à tes deux mains qui préparent les blanches créations cuisinées en chantant. lit-on sur une des grandes toiles accrochées au mur. « L'art est partout », ajoute Denise, en nous remerciant de notre petite livraison de fromage, qu'elle échange contre quelques pains chauds. Il faut juste savoir regarder. Et peut-être un peu déguster. Alors voilà, c'était le tour de la Gaspésie gourmande. On avait l'art de la boulangerie. On avait aussi l'art de la bière, l'art du fromage, l'art de la cueillette. Et on a commencé ça avec l'art de la torréfaction. Pardon, je fais toujours l'erreur. Et ces artisans de la Gaspésie, c'est un article qui s'appelle « La palette de la péninsule ». C'est un texte de Catherine Girouard dans le magazine Caribou.
Voilà en studio. Ah, oh, ça donne la faim. Là, tu l'as... Non, mais c'est tellement délicieux. C'est délicieux à entendre, pas juste, on l'imagine. Moi, je vais vous parler de... On est dans la saison, alors je vais vous parler que retenir un éternuement, et là, je m'adresse à ma collègue à côté qui en retient depuis tantôt, retenir un éternuement peut être dangereux.
Mm-hmm.
Voilà. Alors, ici, je vais vous parler de quelque chose d'épouvantable qui est arrivé à un Britannique de 34 ans qui s'est infligé de graves blessures à la gorge quand il s'est bouché le nez et la bouche pour tenter d'étouffer un éternuement particulièrement vigoureux. Alors, voilà ce qui se passe. Au plus fort de la grippe, les otorhinolaryngologistes préviennent qu'il est potentiellement dangereux d'étouffer nos éternuements. Une pratique qui peut provoquer des blessures. Le monsieur britannique de 34 ans, effectivement, a été excessivement blessé parce que tout de suite après son éternuement, il était incapable de parler ou de manger. Les médecins l'ont examiné et ont entendu des petits sons dans son cou jusqu'à sa cage thoracique. C'était la présence de petites bulles d'air qui s'étaient infiltrées dans les tissus et les muscles de sa poitrine. Il a été hospitalisé pendant une semaine. Et puis, évidemment, on lui a déconseillé de reproduire cette manœuvre dangereuse pour l'avenir. Bloquer l'expulsion de l'air par le nez et la bouche pourrait faire rapidement augmenter la pression dans les poumons, ce qu'on appelle un pneumomédiastin, peut augmenter la pression d'air dans l'oreille interne, peut même aller jusqu'à une rupture de tympan, ce qui est plutôt rare. Et je vais continuer dans mon scénario d'horreur. Ça peut aussi provoquer la rupture d'un anévrisme inconnu de nous, une rupture de petits vaisseaux sanguins superficiels des yeux, de la tête et du cou. Excusez-moi. Bon. Et évidemment, pour un vaisseau sanguin au niveau du nez peut se briser et provoquer un saignement. On a même entendu parler de femmes qui étaient atteintes d'ostéoporose, qui ont subi des fractures par tassement des vertèbres en éternuant. Plus près de nous, un joueur des Blue Jays de Toronto, du nom de J. Kevin Pillar, s'est retrouvé sur la liste des blessés pendant 10 jours en 2015 quand il s'est étiré un muscle en éternuant de cette façon. Quand même. Donc, question. Y a-t-il une bonne façon d'éternuer? Pas vraiment, selon le docteur Monteiro, qui explique qu'un éternuement, c'est un réflexe involontaire qui ne peut pas être contrôlé. Mais je pense qu'il y a une mauvaise façon d'éternuer, c'est-à-dire en bouchant votre nez et votre bouche, qui n'est pas recommandée du tout. Alors, s'il vous plaît, ne pas oublier que le corps éternue pour se débarrasser d'irritants comme mucus ou allergènes dans le nez. Donc, la meilleure façon est d'éternuer dans votre manche ou votre coude et surtout, ne pas le retenir. Voici, c'était un court texte de Cheryl Hubelacker. Du 16 janvier dans la presse canadienne. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, vendredi 19 janvier 2018. Catherine Le Brunet, Francine Forget, Mathieu Tessier et moi-même, Hélène Bédard, nous vous remercions d'avoir été à notre écoute. Ceci étant dit, les deux prochains vendredis, je prends congé. Alors, Catherine et Francine vont relever avec leur brio habituel l'émission.
On va tenter de tenir le micro comme tu le fais si bien.
Oui, je me sentirai libre d'éternuer ou pas au moment. Je le sentirai.
Charmante équipe. Merci beaucoup, Mathieu. C'est très gentil. Là, je vais essayer de parler devant le micro. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver dans 3 semaines pour ma part. Merci. Au revoir.
Bonne semaine.